pour payer les frais d'impression, mais qui seront. Du coup, elle reviendra à un prix dérisoire, quoi. Et du coup, bon, ben là, ça fait à peu près 6 mois que je suis dans cette histoire poisson. Plus je suis dedans, et plus je me dis que c'est vraiment une urgence absolue, quoi, de mettre cette question-là sur le devant de la scène. Pour deux raisons qui sont liées. La première, c'est le nombre de victimes. Il est incommensurable. Enfin, d'ailleurs, on le connaît absolument pas, mais c'est clair que c'est des centaines ou vraisemblablement des milliers de milliards de poissons qui sont tués chaque année. C'est un nombre absolument considérable et qui est en fait en constante augmentation.
Et qui...
Ben non, en fait, enfin, je vais y venir, hein, mais par exemple, j'ai été dans une poissonnerie pour m'enseigner sur le poids moyen par espèce. Et j'ai demandé au poissonnier, et sa réponse a été pour cette année ou l'année dernière. Et il y a des poissons, le poids moyen a baissé de moitié depuis l'année dernière. Et c'est ça constamment. Parce qu'en fait, il y a une telle surpêche, ce qu'ils appellent la surpêche, une telle exploitation des mers, que le taux de renouvellement, enfin bon, les poissons en fait baissent de taille en permanence. Et ils pêchent toujours autant de poissons, enfin, il y a une petite baisse du tonnage dû à la pêche, mais qui est pas grand, c'est quelques pourcents par an maintenant de baisse. Oui, il y a à peu près 100 millions de tonnes de poissons pêchés chaque année. 100 millions de tonnes. Alors évidemment, on ne connaît pas le nombre d'individus, et on ne commençait pas exactement.
Dans le monde ou en France ? Non, dans
le monde. 100
millions de tonnes.
100 millions de tonnes, non. Mais 100 millions de tonnes il y a 10 ans, et 100 millions de tonnes maintenant, c'est pas du tout le même nombre de poissons. Ça doit être le double ou le triple de poissons maintenant qu'il y a 10 ans, pour le même tonnage en fait.
Ils n'ont pas le temps de grandir.
Ouais. Oui, et donc c'est. Enfin, il me semble que c'est vraiment une question de première urgence à cause du nombre d'individus concernés. Et puis. Une chose qui va avec, c'est qu'en fait tout le monde s'en fiche des poissons. À la rigueur, on se soucie des animaux, des gros animaux, les veaux, vaches, cochons, éventuellement des lapins et des poules, et encore, mais on ne se soucie pas des poissons. Et en plus, bah, j'y reviendrai de toute façon sur toutes ces questions-là, mais il y a une évolution des habitudes alimentaires qui fait que les gens mangent de moins en moins de bœufs, de veaux, etc., et de plus en plus de volailles, et surtout de plus en plus de poissons. La consommation de poissons, elle a explosé dans le monde. Et en France, enfin dans les pays industrialisés tout particulièrement, elle a dû doubler dans les 20 dernières années ou un truc comme ça. Quoi. Et voilà, et en fait, c'est à mille lieues des préoccupations des gens. Personne ne se pose jamais la question des poissons. Quoi. Et les gens, quand ils deviennent végétariens, c'est un peu la dernière chose qu'ils abandonnent. Quoi. Y compris des gens qui deviennent végétariens par souci des animaux. Alors, déjà au départ, sur la question de la sensibilité des poissons, enfin je pense que beaucoup de gens ici ont lu le texte de John Dunayet, non ? Qui en parle. Ce que dit John Dunayet, c'est que les poissons, ils ont une très grande sensibilité déjà au tactile, enfin. Tactile de sensibilité de la peau. Ils ont une sensibilité qui peut être très grande aussi à la lumière. Une ouïe qui peut être assez développée, le fait d'entendre. En plus de ça, ils ont une ligne latérale tout le long du corps qui est sensible aux vibrations, qui est extrêmement sensible aux vibrations. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des sens que nous, on a très peu. Ce que dit John Dunayet aussi, c'est qu'ils ont une sensibilité à la souffrance. Et elle donne plein d'exemples, en fait. Tout bêtement, un poisson qui est attrapé, il va se débattre. Un poisson qui est ferré, il va se débattre. Qui est ferré avec un hameçon, etc. Bon, il y a eu des expériences, justement, sur la souffrance des poissons. Là, je reviens un peu là-dessus parce que récemment, il y a un chercheur d'une université des USA qui a publié des travaux qui sont repris un peu partout dans le monde par les sociétés de pêche, par les magazines de pêche, disant que les poissons ne souffrent pas. Parce que les poissons, contrairement aux mammifères et aux oiseaux, ils n'ont pas de néocortex. Et chez les mammifères, ce néocortex, c'est lui qui est le siège, semble-t-il, des sensations de douleur ou aussi, enfin, le siège d'une sorte de conscience qui permet, par exemple, aussi d'éprouver de la détresse, de la peur, des trucs comme ça. Et les poissons ont pas ce néocortex-là, et lui en déduit que, en fait, leur mouvement de fuite, leur mouvement pour essayer d'échapper quand on les attrape à la main, ou pour essayer de se débarrasser de l'hameçon, etc., c'est en fait des mouvements réflexes. Récemment, il y a une autre équipe de chercheurs aux USA qui a publié des travaux qui vont à l'encontre de ce que raconte Rose. En fait, ils ont fait des expérimentations sur les poissons avec des acides. Et en fait, ils montrent que quand les poissons sont anesthésiés, quand on leur a donné des substances anesthésiantes, ils réagissent pas du tout pareil que lorsqu'ils n'ont pas ces substances-là. Et enfin bon, il y a un certain nombre d'expériences de ce type qui finalement viennent réfuter les conclusions de Rose. Voilà. Donc a priori, là où pour l'instant, il y a de bonnes raisons de penser a priori que les poissons effectivement sont sensibles à la souffrance et puis peuvent éprouver des états mentaux comme la peur ou la terreur ou la détresse, etc. Alors les poissons, la plus grosse cause de souffrance pour les poissons, c'est la pêche commerciale, et donc qui a atteint des proportions astronomiques. Au début du siècle, hein, c'était à peu près 4 millions de tonnes de poissons qui sont estimées être pêchées dans le monde. Donc maintenant, ça a été multiplié, enfin on en est à une centaine de tonnes, 2 millions de tonnes par an. Ça a augmenté de façon extrêmement rapide après la Seconde Guerre mondiale. Quand se sont généralisés les chalutiers et les bateaux de pêche à la Seine tournante, enveloppante. C'est-à-dire qu'il fallait des bateaux à moteur pour remorquer des filets qui peuvent faire des kilomètres de long sur 100 mètres ou plus de profond, qui sont des énormes nasses gigantesques qui peuvent couvrir, mais vraiment des kilomètres carrés. Les poissons. Bon, par exemple, la pêche au chalut, on a une sorte de nasse comme ça qui est enfoncée sous les eaux, qui est traînée à une assez grande vitesse par un bateau. Les poissons sont pris dans le filet. Ceux qui sont au fond vont être plaqués contre le filet. Alors souvent ils se blessent sérieusement en se coinçant les ouïes dedans, enfin bon, ou en s'arrachant les nageoires dans les filets. Et puis les poissons qui arrivent derrière vont être plaqués contre. Et le chalut, il peut être remonté à peu près 20 heures après avoir été descendu. C'est-à-dire que ça va être un supplice qui peut durer jusque pendant 20 heures. Le chalut en plus ramasse plein de débris en même temps. Il y a une sorte de chaîne fixée en dessous pour racler le sol pour que les poissons, quand c'est une pêche au sol, quoi, enfin sur le fond, qui va ramasser aussi plein de cailloux, plein de débris divers, qui vont donc participer de cette grosse masse de poissons qui sont plaqués au fond du filet. Et donc c'est un truc qui peut durer des heures et des heures. Quand en plus il y a la pêche en profondeur, ensuite, ils peuvent pêcher jusqu'à 900 mètres de profond, hein. C'est de plus en plus profond puisqu'il faut aller chercher de plus en plus loin les poissons. Quand ils remontent les poissons, il y a des effets de décompression comme pour les humains, c'est-à-dire en fait, si on remonte trop vite, on a été profond, on remonte trop vite, il y a une histoire de pression qui fait que les gaz dissous dans les liquides corporels, dans le sang plus particulièrement, redeviennent à l'état gazeux. Donc ça fait des bulles. Ben, il y a ça et il y a des phénomènes donc d'expansion des gaz qui font que les vessies natatoires peuvent exploser, les estomacs peuvent être retournés, il y a des poissons qui remontent avec les yeux qui sont exorbités, qui sont sortis des orbites, etc. C'est-à-dire que ce phénomène-là de la remontée de la pêche, c'est aussi un phénomène qui peut être absolument atroce pour les poissons, quoi. Il y a des poissons qui arrivent dans un état absolument... qui sont méconnaissables, quoi, à la remontée. Soit qu'ils ont été complètement broyés en bout de filet, soit lors de la remontée, quoi. Alors il y a le système de pêche, il y a le système de scène tournante enveloppante, qui sont un peu du même goût. Il y a un autre système de pêche qui est utilisé pour les gros poissons, style espadon, thon, qui est le système de pêche aux longues lignes, ou palangres. C'est des lignes qui peuvent faire jusqu'à 100 km de long, qui sont traînées par un bateau. Et tous les 50 mètres, il y a un hameçon qui est amorcé. C'est-à-dire que les amorces, ça peut être d'autres poissons. Ça peut être des concres, par exemple. Et donc, on peut avoir des lignes avec 2000, 3000 hameçons par ligne. Et donc, ils sont traînés. Ça peut être en surface, ça peut être entre deux eaux, et ça peut être plutôt du côté des fonds. Ça dépend quelles sont les espèces recherchées. Ils sont traînés par un bateau et là, bon, pareil, les poissons vont mordre à l'appât et ils vont rester embrochés en fait sur l'hameçon et les lignes peuvent être remontées au bout de pratiquement 24 heures. C'est-à-dire qu'un poisson peut rester embroché sur cet hameçon et tirer pendant 24 heures quasiment, quoi. Ce qui est encore complètement atroce, quoi. Bon, ça c'est pour la pêche commerciale. Alors, ce qui s'est passé avec l'épuisement progressif de ce qu'ils appellent les ressources ou la biomasse, parce que c'est comme ça qu'on parle des poissons, quoi, c'est soit ressources halieutiques, soit biomasse marine. C'est que les poissons qui ont été les plus pêchés, c'est d'abord les gros poissons, style morue, thon, saumon, aigle fin, etc., qui sont des poissons prédateurs. Donc ces poissons-là ont été complètement rasiés. Il y en a de moins en moins, quoi. Enfin, de toute façon, les 17 grosses zones de pêche mondiales sont toutes en état de surexploitation, ce qu'ils appellent surpêche. Et dans la plupart des zones, en fait, il y a des moratoires, on ne pêche plus. Par exemple, en mer du Nord, on ne pêche carrément plus les morues. Enfin, ils veulent essayer de reconstituer les stocks, quoi, pour pouvoir recommencer. Mais donc, ces poissons prédateurs ont été décimés, ce qui fait qu'en fait, il y a plein d'espèces plus petites qui se sont multipliées et qui, elles, continuent à être pêchées. Mais ce qui fait que si le tonnage ne baisse pas, par contre, les espèces changent et c'est les espèces plus petites qui sont pêchées, ce qui fait que le nombre d'individus croît. Dans le fait que le nombre d'individus croît, et donc il y a non seulement le fait que pour chaque espèce, le poids moyen, la taille moyenne, des individus baissent, mais il y a aussi le fait que c'est plus les mêmes espèces qui vont être pêchées et plus dans les mêmes proportions. Ce qui fait qu'à tonnage équivalent, on assiste à une croissance exponentielle du nombre d'individus victimes, quoi. Et bon, le tonnage va peut-être pas rester équivalent très longtemps, mais il est peut-être suffisamment... Enfin, de toute façon... il faut espérer qu'ils vont épuiser rapidement et que le carnage va diminuer pour cette raison, mais bon... À l'heure actuelle, c'est incroyable le nombre d'individus qui sont concernés par ça, quoi. Et les institutions internationales se sont alarmées du fait qu'il y avait comme ça surexploitation, que ça n'allait pas pouvoir durer, etc. Et ont décrété dans certains cas des moratoires sur la pêche, mais en général, c'est des quotas. Ils ont décrété des quotas en termes de tonnage, c'est-à-dire que un bateau de pêche n'a pas le droit de pêcher plus de tant de tonnes de tel poisson. Et ils ont décrété des tailles limites en dessous desquelles il faut remettre les poissons à l'eau. Mais alors ça a un effet complètement pervers. Parce que les bateaux de pêche, ils vont à la pêche, bon, ils pêchent en plus plusieurs espèces, ils larguent leur filet en mer, ils capturent des poissons. Bon, alors souvent ils ont augmenté les mailles, comme ça il y a quand même un certain nombre de poissons qui peuvent partir. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont prendre plein de poissons qui sont en dessous des normes. Donc ils remontent tout ça sur le quai. Bon, il faut voir comment les poissons sont jetés sur le quai et ensuite triés. Enfin, d'ailleurs, des fois ils sont triés avec une sorte de harpon, une sorte de truc à pointe. Bon, ils les trient et les poissons qui sont trop petits, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir, ils les rejettent à la mer, en général dans un état qui est complètement pitoyable ou mort. On estime que c'est de l'ordre de 10% de ces poissons qui vont survivre. Et les poissons aussi qui appartiennent à des espèces qu'ils n'ont plus le droit de prendre ou dont ils ont dépassé les quotas, ils vont aussi les rejeter. Alors le problème, c'est que eux, ils sont sortis, ils ont un profit à faire. Donc en fait, ils peuvent très bien avoir atteint leur quota, par exemple, de morue, mais ils n'ont pas leur quota d'aigle fin. Donc ils vont continuer à pêcher. Ils vont rejeter toutes les morues qu'ils vont prendre. Ils vont continuer à pêcher jusqu'à ce qu'ils auront atteint leur quota d'aigle fin, par exemple, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce système de quotas, qui est censé améliorer la situation, dans plein de cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais en tout cas, il y a plein de cas où c'est très clair qu'il empire en fait le nombre d'individus qui sont victimes de la pêche, quoi.
Il les trie,
il les rejette et il continue jusqu'à ce qu'ils aient rempli le stock optimal d'un point de vue fric de poissons. C'est-à-dire qu'ils rejettent tous ceux qui ne vont pas leur apporter assez ou qui...
Parce que de toute façon, même avant ces quotas-là, ils trient. Ils sont obligés de passer par une manière...
Alors voilà, rapidement pour cette histoire-là, on pourrait se dire vivement l'épuisement des mers, comme ça, ça va cesser. Mais même ça, on ne peut pas vraiment se le dire. Bon, d'une part, parce que pour l'instant, l'épuisement des mers, il se fait pas si vite que ça. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui disparaissent ou qui sont quasiment qui sont en état d'épuisement. Mais donc, c'est d'autres espèces qui prennent le relais. Et puis en plus, ils sont en train d'étudier des solutions qui ont déjà été mises en place il y a une cinquantaine d'années, mais qui sont révélées non concluantes, mais qui maintenant pourraient peut-être se révéler concluantes, ce qu'ils appellent l'ocean ranching. Il s'agit d'élever des alevins en écloserie, puis ensuite dans des sortes de fermes, côtières, et de les relâcher dans les mers pour repeupler. Et donc ils ont fait ça pour s'apporter sur des milliards et des milliards et des milliards de poissons, la Norvège ou le Canada, je crois le Canada ou les USA, je ne sais plus.
Le saumon, ils le font.
Alors, ils le font pour le saumon, ça c'est clair. Le saumon, c'est assez simple, ils le libèrent vers une écloserie, et les saumons, bon, ben, au bout de quelques années, ils auront grossi, ils vont revenir à leur lieu d'origine. Donc au moins, ils sont sûrs de capturer leur saumon. C'est très simple au niveau de la propriété, en fait. Parce que quand on libère des poissons dans l'océan, après qui est-ce qui va les pêcher? Il y a un problème pour eux de... que ça coûte cher d'élever des poissons et qu'ensuite c'est pas nécessairement eux qui en ramassent les fruits, quoi. Donc ça, c'est un des gros problèmes de l'océan ranching.
C'est pas des fruits, c'est des poissons.
Voilà, c'est des fruits de mer. Mais donc ils sont vraiment en train de voir s'ils peuvent pas transformer ça en entreprise rentable sur le long terme, l'océan ranching. Comme... Océan ranching, du ranching,
ah oui, ranch,
comme un ranch, ouais. Donc ça, c'est pas impossible qu'on voit ça se développer dans les décennies qui viennent. Et par ailleurs, ce qui se développe, oui, c'est un aspect dont j'ai pas parlé pour ce qui est de la pêche commerciale, mais bon, c'est lié. Ce qui se développe, c'est l'aquaculture. À l'heure actuelle, on en est à peu près 30 millions de tonnes de poissons produits par an dans le monde, de poissons de pisciculture. Ce qui est aussi phénoménal, quoi, comme nombre d'individus. C'est très souvent des poissons prédateurs, qui sont quasi toujours des poissons prédateurs, parce que c'est leur chair qui est plus valorisée, enfin ils vendent plus cher, etc. Ça peut être des saumons, les truites arc-en-ciel. Ça peut être les truites d'eau douce. La France est le plus gros producteur mondial de truites d'eau douce. Et puis ça va être d'autres poissons. Il y a des poissons-chats. Enfin, de toute façon, ils sont en train de diversifier à fond le nombre de poissons qui produisent, hein, ça va être des tilapias, etc. C'est les pays du sud-est asiatique qui produisent le plus de poissons par pisciculture. Pour l'instant, ça va être à peu près les deux tiers. Et ces poissons, donc, eh ben, ils sont. On féconde les œufs, on élève les alevins dans des viviers. Et ensuite, selon que c'est des poissons d'eau douce ou d'eau de mer, en général c'est des poissons d'eau de mer, on les transfère dans des vastes cages flottantes qui sont côtières, si possible dans des lieux un peu abrités. Et là, il y a tout un système pour pour s'en occuper, qui est relativement automatisé maintenant. C'est-à-dire distribution automatique de boulettes de nourriture, avec éventuellement, dans certains cas, des antibiotiques. Parce que c'est vraiment des élevages concentrationnaires. Hein. C'est, par exemple, les élevages de saumon. Il faut imaginer un saumon, il a à peu près, quand il a atteint sa taille d'abattage, c'est à peu près comme s'il était dans une baignoire. C'est-à-dire que il a très très peu d'espace. C'est comme une poule dans une cage de batterie, quoi. Et ils font... Oui, enfin bon...
Donc, en plus, ils sont nourris par des poissons.
Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, ce qu'ils appellent au Canada, on appelle ça la moulée, la nourriture pour les poissons, elle est composée à peu près, en moyenne au niveau mondial, de à peu près 75% d'autres poissons. C'est-à-dire qu'ils nourrissent les poissons d'élevage avec des poissons de pêche commerciale, qui sont en général, c'est de la farine de poisson et de l'huile de poisson. Alors, en fait, il faut savoir que la pêche commerciale, je n'avais pas dit ça tout à l'heure, mais à peu près un tiers de la pêche commerciale, c'est ce qu'on appelle de la pêche minotière. C'est de la pêche dont le but est directement de faire de la farine de poisson et de l'huile de poisson, qui va servir soit à la nourriture des animaux de boucherie, soit à la nourriture des poissons. Soit à faire des margarines, des bougies, des trucs comme ça, du cirage à chaussures ou des machins de ce style. Mais la grosse partie de la farine et de l'huile de poisson servent à l'alimentation des animaux de boucherie. C'est-à-dire ça peut être les poules, ça peut être les vaches, et c'est surtout les poissons, donc je crois qu'il y a... Plus d'un tiers des farines et huiles de poisson servent donc à nourrir des poissons d'élevage. Et ça va nécessairement augmenter parce que la pisciculture, c'est un secteur qui est en expansion exponentielle. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est extrêmement rentable. Il y a un retour sur investissement au bout d'un an. Il n'y a pratiquement pas d'autres secteurs de l'industrie qui soient aussi rentables. Donc ça se développe d'une façon... incroyable quoi. Enfin, je vais peut-être passer sur les détails, mais les poissons de pisciculture, et ben ils vivent donc dans des conditions qui sont assez de surpeuplement et de manque de place qui sont très dures. Ils sont triés aussi. Maintenant, c'est souvent par des machines parce qu'en fait, il faut les trier par taille plusieurs fois dans leur vie. Parce que comme ils vivent comme ça les uns sur les autres, s'il y en a qui grossissent plus vite, ensuite ils vont tout becter à la place des autres, voire ils vont becter les autres. Donc en fait on les trie, et ça c'est une source de mortalité et de stress pour eux qui est vachement importante. Bon, il y a plein de trucs comme ça qui font que la pisciculture, c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être les images de rêve pour les poissons, quoi. Il y a d'autres secteurs de l'aquaculture qui sont terribles aussi. C'est par exemple les élevages de crevettes. Pareil, c'est en pleine explosion, cette industrie-là. Et les crevettes, pareil, sont nourries à partir de farine de poisson et d'huile de poisson. Et par ailleurs, la pêche aux crevettes aussi s'est beaucoup développée. Et c'est une pêche qui est extrêmement... il y a le problème des crevettes, on ne sait pas si elles souffrent ou pas, mais c'est pas impossible. Mais il y a aussi le problème des poissons, c'est-à-dire on estime que dans certains cas, pour pêcher un kilo de crevettes, on va jusqu'à tuer à peu près 4 kilos de poissons. C'est-à-dire que c'est des pêches qui sont extrêmement meurtrières, hein, parce que c'est des filets tout petits et on ramasse pas que les crevettes, quoi. Donc, Donc c'est des trucs qui valent le coup de savoir aussi. C'est-à-dire quand on a des gens achètent des crevettes, c'est un sacré coup quoi, en termes de souffrance et de mort. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi sur ces questions-là? Ouais, je vais peut-être me limiter à ça pour ce qui est de la pêche. Sinon, quelque chose qui est quasiment anecdotique.
Les baleines.
Mais les baleines, c'est pas des poissons.
Ouais, mais...
Les baleines, je connais pas le problème, mais puis ça correspond à tellement peu d'individus que je m'en suis pas du tout
occupé. Mais il y a un truc intéressant, par exemple, par rapport aux baleines, c'est que les Japonais détournent les fameux quotas en disant que c'est de l'expérimentation animale.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc à partir de ce moment-là, le quota n'est plus fixé. Ce qui fait qu'ils pêchent, des tas de baleines qui sont après revendues bien évidemment et qui sont soi-disant taxées d'expérimentation.
Oui. Les recherches scientifiques ne disent pas expérimentation animale.
Est-ce que tu as fini?
Oui, je ne sais pas si ça vous intéresse, sinon, mais je trouve que c'est quasiment anecdotique par rapport au problème de la pêche, mais c'est... j'aurais pu parler aussi de la pêche de loisirs, mais bon. Non, mais sinon, c'était les histoires d'aquarium. Je dis c'est anecdotique parce que ça touche beaucoup moins d'individus. Mais bon, en France, on estime qu'il y a à peu près, entre 20 et 25 millions de poissons d'aquarium. C'est-à-dire que c'est...
Chez les particuliers.
Chez les particuliers, et sans doute dans les restaurants, les entreprises, les trucs comme ça, quoi. Et c'est très très difficile, évidemment, comme pour tout ce qui concerne les poissons, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres, vraiment. Mais c'est pareil, c'est des poissons qui vivent dans des conditions qui sont lamentables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espace, ils sont soumis à des agressions incessantes en termes de lumière, de bruit. Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations, mais ça signifie que quelqu'un qui tape sur une vitre d'aquarium, ça peut vraiment terroriser un poisson. Ils sont sensibles aussi aux produits polluants de façon extrêmement forte. Et ça peut être tout bêtement quelqu'un qui fume dans la salle. Ça peut vraiment être très pénible pour un poisson, etc. etc. Et j'ai eu des chiffres d'un article allemand qui estimait qu'en moyenne, en Allemagne, les aquariums, le contenu des aquariums, c'est-à-dire les poissons, était changé jusqu'à 4 fois par an. C'est-à-dire qu'il y a un taux de mortalité dans les aquariums qui est énorme. Et du coup, c'est là encore... On parle toujours des animaux familiers, mais des animaux de compagnie, etc. Et on parle jamais des poissons, alors que dans certains cas, ils constituent la majorité des animaux de compagnie. Bon, en France, c'est pas le cas, je crois qu'ils sont un tiers ou la moitié, quelque chose comme ça. Mais oui, mais ça passe complètement inaperçu, on les compte pas en tant qu'individu. Mais un seul aquarium, ça peut être 10, 20, 30 poissons. Ça va vite, hein. Et en plus, avec le taux de mortalité qu'il y a, ça fait un taux de consommation... est énorme encore. Et là encore, enfin bon, soit ils viennent de viviers, c'est-à-dire d'élevage, c'est essentiellement les poissons d'eau douce qui sont élevés, soit ils viennent, pour les poissons de mer, 95% viennent en fait de milieux naturels, et ils sont pêchés, dans la plupart des cas, ils sont pêchés au cyanure. Et là, c'est pareil, enfin bon, un taux de mortalité gigantesque, ça touche plein de... C'est-à-dire qu'en fait, pour un poisson d'aquarium qui arrive sain et sauf dans un aquarium, il y en a eu 10 ou 50 qui sont morts. Donc, je dis c'est anecdotique par rapport à la pêche commerciale, mais c'est pas du tout anecdotique par rapport à n'importe quel autre problème dont s'occupe l'antispécisme ou la protection animale ou autre, quoi. C'est un problème gigantesque, le problème des aquariums. Mais on est tellement dans des trucs incommensurables quoi que ce truc d'aquarium, et ben voilà, il est dérisoire par rapport au reste encore. Bon, ben, je vais arrêter là et puis on peut.
Qui prend les tours de parole? Je vais
Moi, je voulais savoir si ta brochure, tu allais l'envoyer à toutes les associations de France, d'Europe, choses comme ça.
Je pense, oui. Ouais.
Parce qu'à la Vigipral, il y a quelqu'un de Gaïa qui m'a empêché de parler au micro. Enfin, il a voulu essayer de m'empêcher de parler de la souffrance des poissons. Pourtant, il était végétarien. Il m'a dit, les poissons ne souffrent pas, c'est plutôt les plantes.
Je me rappelle de ce cas-là. Estiva, il a essayé de me le refiler. Je m'étais défilé.
Basé son argumentation sur de la sagesse asiatique ou un truc comme ça, ou je sais plus pourquoi il a parlé, mais il y avait une hiérarchisation des individus et que qu'il y avait des mammifères, des êtres humains, mais en dessous il y avait, et en dessous il y avait les poissons. Ça lui paraissait ridicule pour trouver le problème des poissons. Alors que c'était en fait des inférieurs en fait par rapport à ce que ça pourrait représenter les mammifères. On était décrédibilisés. J'ai parlé de s'intéresser aux problèmes des poissons. Bien sûr, les poissons dans le végétarisme. C'était sur une base. Sur une base religieuse, quoi.
Cheyenne! Je trouve que c'est d'autant plus important parce que souvent les végétariens sont encore considérés comme des personnes qui ne mangent pas des bœufs, des poulets, mais qui mangent des poissons.
Sur le dictionnaire, sur le dictionnaire, c'est écrit que les végétariens mangent du poisson.
Oui. Et tu peux acheter des livres de cuisine végétarienne où tu as du poisson. Moi, j'en ai trouvé plein.
D'un point de vue utilitariste, comme la plupart des poissons sont des prédateurs, en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas manger des poissons pour éviter d'autres souffrances aux poissons mangeurs ?
C'est une très bonne question.
Les poissons qu'on mange, c'est des poissons qui mangent d'autres poissons. Si on les mange, ben, ils ne mangeront pas d'autres poissons.
Oui, mais ça, parce que du coup, on pêche encore plus de... Leur proie, je veux dire, elles ne vivent pas une vie... elles sont pêchées dans de plus grosses proportions, et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là...
On relâche les petits, quoi. Voilà. C'est la vraie souffrance de manger les gros poissons que de pas en manger.
Je suis pas certain que les petits poissons broutent de l'herbe. Ils doivent se nourrir aussi de crustacés, de...
Oui, c'est bien possible.
Ah. Ça aussi, est-ce que tu as fait la distinction dans les poissons? Le mot poisson, ça regroupe énormément d'individus différents, ne serait-ce qu'au niveau biologique. Est-ce que tu comptes là-dedans tous les produits de la mer, en fait, les crabes, les moules, les petits poissons, les gros poissons.
Je ne parlais que des poissons, mais je n'ai pas fait distinction avec les poissons. C'est vrai qu'en fait, les poissons, il y a les poissons, les téléostéens, c'est ceux qui, je crois, qui sont osseux. Il y a les cartilagineux. Qui sont plus anciens, ils n'ont pas les mêmes systèmes cérébraux, etc. C'est vrai que de ce qu'on recouvre sous le terme de poisson, c'est des catégories extrêmement différentes. Mais de toute façon, c'est déjà tellement compliqué d'obtenir des renseignements sur les capacités éventuelles, enfin les capacités de souffrance, tout ça, des poissons en général, sur les poissons des cas plus particuliers, moi j'ai rien trouvé. Hein. Et je me suis pas attaché à faire de différence entre les différents cas.
Il y a deux choses là qui me choquent. L'histoire du dictionnaire, parce que même ça que j'avais vu dans mon Robert, je ne crois pas avoir vu que le végétarien...
Sur un Larousse.
Sur un Larousse, mais un Larousse qui date des années... Peut-être qu'il y aurait un travail à faire pour que la définition change, quoi. C'est quand même grave.
Je pense que c'est même peut-être plutôt dans les dictionnaires récents qu'ils introduisent le fait que les végétariens mangent du poisson.
Parce que c'est
une
réalité.
Ben non, c'est une réalité. C'est une réalité de plus en plus que les magazines parlent du végétarisme, mais en parlent comme étant le fait de manger léger, pratiquement. Et manger léger, ça inclut aussi le thon, des choses légères.
demander dans la rue s'il y a une ressource diététique. Il y a aussi de légèreté, effectivement. De la... c'est pas une question d'éthique, hein. C'est vraiment une question de diététique.
Et je pense que ça correspond à aucune des définitions traditionnelles. Enfin, traditionnellement, végétarien était clairement, on ne mange pas les animaux. Et que c'est une nouveauté et qu'il faudrait peut-être faire une campagne pour dire au dictionnaire que c'est absolument pas normal que les dictionnaires prennent ce parti-là et transforment le mot, alors que le mot il a un certain sens et que les végétariens tiennent à ce que ce mot garde ce sens. Quoi.
Oui, parce que, enfin, moi je sais que j'ai été confrontée à ce problème dans un restaurant où sur la carte, ils avaient mis remplacer le jambon. Il y avait un plat avec du jambon et il y avait écrit pour les végétariens, ce plat peut être remplacé par du thon. Et j'ai dit au cuisinier attendez, on est végétarien, on ne mange pas de poisson. Alors il a dit vous n'allez pas m'apprendre mon métier au bout de 15 ans. Donc je lui dis, vous n'avez qu'à regarder dans le dictionnaire. Donc dans ce cas-là, si j'envoie sur le dictionnaire, et qu'ils disent de manger du poisson, ça ne fait pas. Quoi.
C'est quel dictionnaire qui inclut les poissons?
Le Larousse, moi j'en suis sûre.
Moi le Robert, j'en suis pas sûre. Hein.
Ouais, c'est pas Robert. Robert est quand même... ouais. Enfin, pas le Robert, il y a quelques années.
Le Robert, c'est un truc plus quand même, j'en suis sûre.
Il y a énormément de livres de cuisine, de cuisine végétarienne, qui incluent le poisson. Et certains, les crustacés plus particulièrement. Et c'est vrai aussi que c'est dans l'esprit des gens en général, parce que très souvent tu dis que tu es végétarienne, tu t'attends à avoir un repas essentiellement végétarien et on te sert du poisson à la place du beefsteak. C'est fréquent. Je veux dire, c'est aussi dans l'esprit des gens.
C'est pour ça que cette brochure est doublement importante. Et la deuxième chose qui me choque, c'est ce que tu dis, Laurent, c'est que c'est même si c'est un prédateur, j'aurais pas envie de manger du poisson, quoi. Parce que j'ai pas suivi là, il y a quelque chose qui m'échappe. Hein.
En Angleterre, ils font du poisson pané végétal maintenant. Ouais, des trucs, des bâtonnets de poisson comme ça, qui sont panés, et vraiment, t'as l'impression de manger du poisson 100% végétal, je pense, pour la méthode. Non, mais c'était que si tu te places du point de vue du nombre d'animaux tués, du nombre d'animaux qui souffrent, si tu manges un lion, par exemple, tu sais qu'il va tuer plein de gazelles, bah ouais.
Il va manger le lion.
Est-ce que si tu laisses faire le lion ou si tu le manges, qu'est-ce qui est le mieux finalement?
On devrait peut-être manger des omnivores.
Oui, aussi.
On va tendre des pièges là au camping et puis choper les Hollandais dans les douches.
Pourquoi les Hollandais?
Pourquoi les Hollandais?
Parce qu'ils sont très nombreux. Non mais en termes de.
Hein? Non, il y avait Didier.
Hein?
Oui, c'est que je pense que dans le cas des poissons, c'est pas. Je crois que là se joue aussi la question de la différence entre faire souffrir et tuer. Aussi parce que les poissons, bon, il y a le gros poisson, le thon, et puis il y a toutes les tailles, jusqu'à des poissons pratiquement microscopiques, presque, quand ils naissent, c'est des larves, quelle sensibilité ils ont à cet âge-là, est-ce qu'on peut considérer que leur vie a une importance, ou a une importance, enfin, le fait de ne pas les tuer est aussi important que de ne pas tuer un chat, un chien, un être humain. Bon, c'est évidemment c'est assez complexe. Par rapport à l'histoire de la prédation, on peut penser que la plupart des poissons qui sont tués par la prédation souffrent peut-être qu'ils souffrent une minute ou deux maximum, mais qu'ils ne souffrent pas des 24 heures dans des conditions atroces comme quand ils sont pêchés au fond des mers, quoi. Donc, moi j'aurais tendance par rapport aux poissons à réfléchir plus en termes de souffrance, aussi à réfléchir, on ne doit pas bien savoir réfléchir, mais bon, je veux dire que des choses atroces, des poissons coincés au fond des filets, on marche par terre, on écrase des insectes, on ne fait pas bien gaffe, l'insecte il est à moitié écrasé, il s'agite les pattes encore pendant un quart d'heure avant de crever complètement, c'est atroce aussi quoi. Enfin, on ne sait pas bien si c'est atroce ou si c'est pas atroce, mais je ne serais pas sûr que pour les poissons les plus petits, dont le système nerveux est le moins développé, la souffrance soit plus intense que celle d'une araignée, d'une mouche qui se cogne pendant des heures contre une vitre, quelque chose comme ça. Quoi. Enfin, moi, ça me pose un problème, j'ai pas bien de solution comment évaluer. Enfin, je pense que le problème des poissons est un problème extrêmement important en termes de souffrance totale, vu le nombre et vu qu'il y en a beaucoup qui sont clairement des animaux développés avec un système nerveux suffisamment développé pour vraiment bien ressentir la souffrance et à peu près comprendre ce qui leur arrive. Mais c'est vrai que d'un autre côté, les poissons, ça ouvre cette espèce de porte vers ce continu qui va jusqu'aux animaux les plus petits, dont on ne peut pas tenir compte en pratique tous les jours, les insectes et tout ça, quoi. Et la question de juger qui est sensible, qui n'est pas sensible, qui est une question extrêmement peu résolue aujourd'hui par la science et par la réflexion philosophique sur le sujet. Quoi.
Oui, plutôt que les poissons, moi j'aurais envie de parler de produits de la mer. C'est-à-dire effectivement tous les mammifères marins, mais aussi les crabes, comme on a vu, les crevettes, les huîtres, les moules, etc. C'est-à-dire en fait tout ce qui a vraiment une vie déjà autonome et importante. Parce que finalement, quand on est végétarien, est-ce qu'on peut manger des huîtres, je veux dire ? Ça paraît aberrant. Donc si on accepte une partie, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre du vivant doit être pris en compte. Mais bon, c'est une réflexion qu'il faut avoir là-dessus.
Moi, je pense que c'est
l'animal
qui est vivant.
Je peux un peu expliquer la brochure, sauf un tout petit machin qui parle des crevettes. La brochure sur les poissons, elle va pratiquement. À un moment donné aussi qui parle des oiseaux piscicoles, c'est-à-dire les oiseaux prédateurs. Mais sinon, le parti pris, ça a été de ne pas du tout parler d'autre chose que des poissons. Ni des humains, enfin en termes de santé humaine ou trucs comme ça. Ni des autres animaux qui sont victimes de la pêche. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les poissons qui trinquent. Il y a plein d'autres victimes annexes, collatérales. Et... ça, bon, pour plusieurs raisons, pour les crustacés tout ça, bon, c'est moi, ce qui me motive, c'est l'histoire souffrance. Et pour les crustacés, on ne sait pas ce qu'il en est, à part peut-être les homards. Et puis l'autre raison, c'est que les poissons, ils sont tellement inexistants dans l'esprit des gens, que l'idée, ça a été de faire une brochure qui soit centrée sur eux, quoi, et qui parle que d'eux, qui parle pas d'autres trucs annexes, on parle pas d'écologie, on parle pas des mammifères marins, on parle pas des tortues. On centre sur les poissons parce que personne ne fait jamais ça, quoi. Ils sont jamais pris pour objet vraiment pour eux-mêmes. À tel point d'ailleurs, c'est intéressant à savoir, mais c'est les seuls animaux, par exemple familiers, je parle des aquariums, il n'y a pas de normes de. Ou même pour la pêche de loisirs et tout ça, il n'y a rien au niveau légal, par exemple, qui permette de. D'assurer, enfin de garantir un minimum de bien-être pour les poissons, quoi. Et au niveau des méthodes de pêche, c'est pas non plus réglementé. Et au niveau des élevages, il y a pratiquement pas de réglementation. Il y a des réglementations au niveau de la mise à mort, hein, mais la réglementation, ça aboutit, on va laisser, dans certains cas, on laisse les poissons agoniser à l'air frais, quoi. Enfin, éventuellement sur de la glace pour pas que la chair soit abîmée. Alors que ça prolonge encore plus leur agonie, c'est-à-dire qu'ils meurent plus lentement en étant...
Mais cette réglementation pour la mise à mort est censée protéger leur bien-être quand même ?
Non, je crois pas. Je suis pas sûr. J'en sais rien. Mais il me semble pas. Enfin, dans certains cas, oui, parce que c'est des trucs d'étourdissement, si. Mais dans plein de cas, a priori, il n'y a aucune... Il y a des méthodes de mise à mort où c'est clair, c'est du n'importe quoi, quoi. Enfin... Mais ils sont vraiment inexistants, quoi. C'est un point qui est hallucinant. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. Enfin, si, sur les insectes ou les crustacés, quoi. Mais je veux dire, pour des animaux vertébrés.
Et est-ce que tu sais s'il y a des études en cours, enfin, c'est-à-dire ce sur quoi on peut s'appuyer pour parler de la souffrance des patients? S'il y a vraiment en matière, ou s'il y a deux ou trois études, ou si ça se développe ou...
Non, ça se développe. C'est toujours dans les pays anglo-saxons. Et là, il y a, dans les derniers mois, il y a eu donc l'étude de Roslin, là, l'université aux États-Unis, qui a fait pas mal de bruit. On en a parlé en France. Hein, on trouve des articles dans Science et Avenir, dans le Courrier International... Le dernier Courrier International, il y a Singer qui en parle, par exemple, de cette étude-là. Avant, il y avait eu l'étude de Rose, dont je parlais, le mec qui réfutait le fait que les poissons puissent éprouver de la souffrance ou du stress ou de la détresse. Et avant, il y a déjà eu pas mal d'études, mais qui dépassent pas les cercles de spécialistes, en général. Là, c'est récent qu'effectivement, il y a des études qui atteignent un niveau de publicité. Soit l'étude de Rose, le fait que ça ait été publié dans plein de magazines de pêche, ça signifie qu'il y a une préoccupation des pêcheurs sur cette question-là, et qu'ils étaient contents de trouver des arguments disant que les poissons ne souffrent pas. Et le fait que l'étude de Roslin ait eu tant d'écho, même si c'est que des entrefilés à chaque fois, mais on a parlé aussi à la télé, moi il y a des gens qui m'ont dit, j'ai entendu à la télé, d'autres à la radio, donc il y en a été parlé de cette étude. Ça c'est un truc complètement nouveau, qu'on parle d'études sur la souffrance des poissons. C'est vraiment encourageant, hein, d'ailleurs, que cette... Mais bon, c'est que des études anglo-saxonnes, il n'y a rien en France sur ces questions-là.
Mais même, par exemple, Peter Singer, dans La Libération animale, quand il parle de devenir végétarien, quand il parle des poissons, il me semble me rappeler qu'il en parle très rapidement de la question de la souffrance des poissons et beaucoup plus de questions de surpêche et de, aussi du fait que la pêche dans les pays industrialisés, ça épuise des mers qui sont des ressources pour les pays en voie de développement, etc. quoi. Il y a aussi cette question, dans cette question de pêche, il y a ça, c'est-à-dire le fait que la pêche, ça soit considéré comme une ressource absolument indispensable pour les pays en voie de développement, que c'est presque remettre en question la pêche, très rapidement, on se heurte à ce discours qu'on serait anti-pays pauvres, parce qu'eux, ils ont rien d'autre à bouffer, etc. Qui correspond, à mon avis, à des problèmes réels. Quoi,
ah oui, c'est sûr. Oui, oui. Non, mais c'est quasiment, il y a des états de guerre quasiment sur les questions de pêche. Hein. De toute façon, l'histoire entre le Maroc et l'Espagne, c'est une question de pêche. Hein. Il y a eu des conflits avec des coups de feu, etc., entre les marins français et les marins espagnols. Il y a eu des conflits qui ont failli dégénérer aussi entre le Canada et la France. Enfin, ça n'arrête pas. Et c'est des questions avec le Sénégal, les côtes africaines. Il y a des conflits qui peuvent dégénérer en conflits armés, enfin, je veux dire, des échanges de coups de feu et des trucs comme ça, quoi. La situation, elle est hyper tendue au niveau mondial sur ces questions-là. Ben, ça, c'est tous des trucs dont j'ai résolu de ne pas parler dans la brochure. Ça ne concerne pas les poissons, quelque part.
Non, mais ça concerne le fait que la question des poissons, dès qu'on parle des poissons, les gens pensent à d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes autour qui font écran à ça aussi. Dans tous les trucs de défense animale, quand ça parle des poissons, on parle tout de suite de surpêche. Et ils sont invisibilisés à travers ça, ils sont invisibilisés à travers le fait qu'on va effectivement parler des baleines, on va parler des dauphins,
Quand on parle des thons,
on parle des dauphins.
On parle des dauphins.
Il y a un autre truc d'invisibilisation des poissons en tant que tels. Ils sont perçus comme des produits de la mer. Et donc, par exemple, un des gros problèmes dans la recherche là, sur la pêche, entre autres, c'est qu'on a les chiffres. On a facilement des chiffres globaux des produits de la mer, par exemple l'exploitation des produits de la mer. Ou alors pour l'aquaculture, on a les chiffres de l'aquaculture et pas de la pisciculture. C'est-à-dire que ça correspond aussi à tout ce qui est conchiculture, c'est les huîtres. Ça correspond aux crevettes, etc. etc. Et il faut se décarcasser pour arriver à trouver les chiffres des poissons spécifiquement. Il y a une sorte de loubi-boulga, ça vient de la mer, c'est tout mis dans le même sac. Peut-être que ça va mettre dans le même sac, je veux dire, en termes de tête sensiblement, on ne sait rien, si ça se trouve pas, quoi, tout ça.
Et même nous, dans le vocabulaire, on parle souvent du poisson, enfin, comme du carton. Je ne mange pas du poisson.
J'ai regardé là, les tiques sèches de Florence Burga, il y avait l'animal dans les pratiques de consommation, mais il n'y a pas une ligne sur les poissons. Ouais. Ou le truc sur la protection animale, il n'y avait rien sur les poissons. Donc, hein. C'est-à-dire que, je ne dis pas ça pour taper sur Florence Burga, hein, mais c'est révélateur du fait qu'il passe à la trappe. Quoi. Arnal, elle est intéressée par la brochure. Je vais voir si la PMAF ou One Voice veulent pas y diffuser en fait. PITA a fait du boulot sur les poissons qui est pas mal du tout. Et ils ont leur site internet est extrêmement fourni. Il est bien fait, ils ont un truc aussi pour les gamins. Il est vraiment très intéressant. Bon, il parle aussi des à côté, hein. Enfin, il parle aussi des tortues qui meurent dans les filets de pêche ou des trucs comme ça. Mais ils ont fait vraiment du bon boulot à ce niveau-là.
Moi, j'ai pas bien compris l'histoire des 20 heures de souffrance de poisson. Je croyais qu'un poisson, il souffrait 3 minutes ou 5 minutes quoi, avant de mourir.
Ben non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Là, c'était. J'en ai parlé à deux reprises des 20 heures. Il y a l'histoire des filets. C'est-à-dire que les poissons qui sont pris dans les filets, eh ben, ils restent pris dans le filet. Les filets sont traînés par un bateau à une assez grande vitesse. Donc ils s'amassent au fond du filet. Ils sont serrés comme des sardines et ils sont compressés comme des je sais pas quoi. Avec en plus des cailloux dedans. Des trucs. Mais ils ressortent dans un état pitoyable. D'abord ils ressortent morts, mais ils ressortent avec les écailles complètement arrachées, limées, etc. Les filets, voilà. Ouais. Et les filets sont remontés toutes les 20 heures, un truc comme ça. C'est-à-dire que les premiers poissons, c'est ceux qui se retrouvent au fond, ils sont écrabouillés par les autres, ils sont frottés, etc. Et en plus, ils vivent ça, enfin, c'est-à-dire s'ils survivent, ça peut durer jusqu'à 20 heures, cette torture-là. Il y avait ça, et puis j'en ai parlé pour les palangres flottantes. Les palangres, c'est ces longues lignes, là, avec des hameçons tous les 50 mètres, des lignes qui font donc 100 km, qui peuvent faire jusqu'à 100 km de long. Et... ben voilà, un poisson qui s'embroche au début là-dessus, elles sont remontées toutes les 20 heures dans certains cas. Donc il peut rester embroché palangre. Il peut rester embroché pendant 20 heures. Hein, et remorqué par le bateau, quoi, par la bouche. Hein. C'est comme pour la pêche à la ligne, sauf que là, la ligne elle est tendue en permanence, lui il gigote après et puis il est entraîné par le bateau. Quoi. Il y a encore autre chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est les filets dérivants. C'est ahurissant ça, c'est un système de pêche, c'est des filets qui peuvent faire, il faut que je vérifie pour les chiffres, mais qui peuvent faire, je crois, plus d'une centaine de mètres de hauteur. Et en longueur, je vais vous dire ça, et qui sont laissés à dériver en fait. Et les poissons se prennent dedans, et bon, bah, ils sont remontés de temps en temps. Mais y a ça fait un nombre de morts, ces filets-là, qui est gigantesque. Et en plus, c'est des filets qui sont... Il y a plein de déchets. Et donc, les mers sont pleines de filets dérivants qui ne sont même pas remontés. place. Je veux dire qu'ils sont des déchets, quoi. Et donc, les poissons continuent à se prendre dedans. Pas que les poissons, encore une fois, mais entre autres les poissons. Et donc, ça reste des pièges gigantesques. Et il y en a partout, partout. J'ai les chiffres là-dedans, c'est du délire. Je vais vous retrouver ça. C'est encore une sorte d'à côté de la pêche, mais c'est un à côté encore qui est hallucinant, quoi.
Je crois que le principe, c'est que c'est des mailles d'une certaine taille.
C'est ça.
Le poisson avance et il est enserré par la maille. Il peut pas le passer et le poisson, il a aucun moyen de reculer. Donc, il reste captif de la maille le temps que soit de mourir, soit de.
C'est où l'histoire de filer.
D'être remonté, quoi. De mourir aussi.
Aussi le problème que les chaluts, ils raclent le fond de la mer, ce qui fait que ça détruit complètement l'écosystème marin. Et bon, on voit bien par exemple en mer du Nord où ça devient quasiment désert à cause de ça, parce que il n'y a plus de vie, quoi, il n'y a plus que le sol, et tout ce qui était les algues, machin, tout, c'est emporté par les chaluts.
Il y a des coins, il y a une telle pêche qu'il y a des coins, par exemple en mer du Nord, enfin du côté des côtes hollandaises, c'est raclé jusqu'à 7 fois par an, les mêmes fonds. C'est-à-dire que c'est du désert, quoi, il n'y a rien qui peut pousser. Tous les deux mois, c'est raclé avec des chaînes. Et ça, sur des surfaces. Bon, la mer du Nord, c'est devenu un désert, en fait. Hein. C'est une des zones où il y a eu l'exploitation. Là, sur les filets, ce que je disais sur les filets, hein, ils font jusqu'à 60 km de long, 25 mètres de haut, je disais 100 mètres, mais c'est 25 mètres là. Et donc ils sont laissés à la base et ils vont dériver, quoi, au gré des courants. Et là, les chiffres que j'ai trouvés, c'était par exemple dans le Pacifique, il y avait jusqu'à 32 000 km de filets dérivants qui étaient déployés chaque nuit. Donc c'est des quantités, c'est invraisemblable, quoi. Alors ils ont été réduits à 2,5 km dans les zones européennes de long. Sauf que les Français et les Irlandais ont obtenu des dérogations de 5 km. Oui, voilà, c'est le genre de mesures qui sont prises par la communauté européenne. La communauté européenne essaye de faire pression au niveau mondial pour la réduction des pêches, pour qu'il n'y ait plus de subventions versées aux pêches et au renouvellement des flottes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'industrie de la pêche est une industrie au niveau économique qui serait déficitaire si elle n'était pas subventionnée. Ouais. Et elle est subventionnée à fond. Hein. Je crois que l'Europe subventionne à hauteur de 70 milliards de francs, je crois, par an, la pêche européenne. Et là, donc, ils sont en train de couper les crédits pour tout ce qui est renouvellement des flottes, etc. Quoi. Mais bon. Enfin, c'est simplement un indice du fait qu'il y a sur-exploitation, mais voilà, c'est tout. C'est pas ça pour les poissons.
Non.
On a aussi fait des recherches sur la pollution. En fait, les poissons sont super sensibles à la pollution. Et il y a plein de problèmes de ce côté-là, quoi. Par exemple, les détergents, les produits détergents qu'on utilise, hein, ils sont vachement nocifs pour les poissons. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Les produits pétroliers, on parle toujours quand il y a les naufrages de pétroliers, là, des oiseaux, etc. Mais en fait, les poissons aussi, ils morflent. Le pétrole, l'huile se colle sur eux. Et ils peuvent mourir de maladies internes, ils peuvent carrément s'asphyxier aussi si ça se colle sur les ouïes. Enfin, ça, c'est des trucs qu'on n'en parle pas. Mais quand il y a eu le naufrage du Prestige, dans plusieurs journaux, magazines, j'ai vu des allusions aussi aux poissons. Comme tout. Et ça, c'est pareil, c'est complètement nouveau. Le fait qu'il y ait des allusions à ça. Avant, c'était jamais mentionné. Donc il y a quand même une évolution de.
Le domaine aussi de soutien dans les eaux, toutes les eaux qu'on
déverse dans les rivières, j'en parle à des gens, je dis mais on met des produits d'entretien écologique, des choses qui ne sont pas nocives, parce que tout ça, ça part dans les rivières. Bon, même si évidemment c'est à moindre échelle, c'est dérisoire, mais c'est aussi un point sur lequel on peut sensibiliser les gens.
Les insectes aussi, dans certains cas, ils tuent les bêtes. Hein. Il y a un truc auquel on pense pas, mais c'est pareil, c'est de la anecdote. Hein,
les centrales nucléaires, elles rejettent de l'eau chaude. Et donc, il se crée une sorte de microclimat. Progressivement, et c'est une sorte de milieu spécifique. Et puis quand il y a l'arrêt de la centrale, comme ça arrive fréquemment, et ben tout ce milieu-là est éradiqué en fait, parce qu'il peut pas. C'est des différences quand même qui sont importantes de température. C'est plus les mêmes espèces tout ça, et donc à chaque fois, hop, ça passe à la trappe. Pas moins. Ben non, parce que la centrale elle arrête du jour au lendemain, donc la température elle va baisser de 10 degrés en l'espace de quelques heures.
Mais c'est vrai que les températures sont bonnes.
Mais non, c'est souvent.
Qui ferme les centrales qui ferment.
Ben ils ferment des tranches pour les. Ben oui, c'est.
Les jamais en fait.
Ouais. Je crois que les centrales françaises sont plus souvent fermées qu'en activité. C'est vraiment de l'ordre de l'anecdote, ça.
C'est très rare qu'une centrale ferme en totalité, elle ferme par tranche, ce qui fait que la température, enfin nous on en a une très proche de chez nous, et il ferme par tranche, mais l'eau, enfin, la température de l'eau ne change pas parce qu'il y a d'autres tranches qui fonctionnent. En fait, ça ne peut se produire que si la centrale s'arrête totalement, ce qui arrive quand même assez rarement.
Il ferme aussi par... par manque d'eau, c'est-à-dire quand le niveau du fleuve baisse, ils n'ont plus assez d'eau pour refroidir, ils font des pauses.
Ils sont assez à l'écoute, enfin, j'ai l'impression, j'en connais, j'ai l'impression qu'ils sont assez à l'écoute quand même de tous ces problèmes, parce que ben, nous, on connaît quelqu'un qui travaille, qui est très sensibilisé aux problèmes animaux, et qui informe aussi les visiteurs, etc. Bon, sa hiérarchie a l'air d'être assez à l'écoute, de faire attention. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai partout, mais en tout cas là, nous on a un exemple. C'est Saint-Laurent-des-Eaux, à côté de Blois. C'est une petite. Entre Orléans et Blois.
Par rapport aux poissons, par rapport à cette indifférence par rapport à ce que vivent les poissons, c'est un truc qui date pas d'aujourd'hui. J'avais un peu fait des recherches là-dessus. J'avais appliqué la conclusion qu'il y avait plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y avait évidemment il y a des trucs on les entend pas crier, ils vivent dans un milieu qui n'est pas notre milieu, qui nous est assez étranger. En plus, ils ne sont pas très expressifs. Enfin bon, il y a ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Mais a priori, il y a aussi, des facteurs un peu indirects. Il y a le fait qu'ils saignent peu. Il y a plein de gens qui ont l'impression que les poissons n'ont pas de sang. En fait, on parle d'animaux à sang froid, mais on voit rarement le sang des poissons, quoi. Et en fait, dans notre civilisation, le sang, ça a l'air d'être un truc vachement important. C'est un truc valorisant quand même. Faire couler le sang, ça, c'est quelque chose qui valorise celui qui le fait couler, mais qui valorise aussi celui qui est tué de cette façon-là. Et ça, depuis l'Antiquité, mais c'est resté valable pendant tout le Moyen-Âge, et puis même maintenant, en fait. Les morts honteuses, c'était des morts par pendaison, c'était des morts par asphyxie dans l'eau ou des trucs comme ça. Et les morts nobles, c'était des morts qu'on faisait par arme blanche, qu'on faisait couler le sang, etc. Et par exemple, sous l'Ancien Régime, les gueux, ils étaient pendus ou noyés, et les nobles étaient décapités. Il y a plein de trucs comme ça.
Que la chasse est un sport noble, alors que la pêche est un sport qui est réservé aux paysans, à la cour jusqu'au XVIe siècle, même peut-être après, je ne sais pas, on va à la chasse parce que c'est un sport noble, et en revanche, on mange beaucoup de poissons, mais le poisson n'est jamais pêché par les nobles. Enfin, c'est toujours un travail
complètement déclassé de pêcher. Et pendant l'Antiquité grecque, la pêche n'était pratiquée que par les esclaves. Il a fallu attendre la chrétienté et les histoires de carême pour que ça soit pratiqué plus largement, et que ça perde un petit peu ce caractère complètement infamant que ça avait dans l'Antiquité. Quoi. C'est vraiment, ça remonte loin, ça. Et moi, je pense que c'est entre autres lié aux histoires de sang. Et quelque part, ça va aussi avec les catégorisations des viandes. C'est-à-dire que, pareil, dans notre civilisation, les viandes, elles sont catégorisées grosso modo en quatre parts. Il y a les viandes noires, qui sont les viandes de gibier, qui sont censées avoir un goût super fort et qui ont une connotation extrêmement virile et qui correspondent donc à l'animal qui est chassé par des hommes, etc., et dont le sang coule, etc. Et ensuite, il y a les viandes rouges, qui ont aussi une connotation super virile, mais moins que les viandes noires. Et c'est pareil, c'est des animaux, c'est les gros animaux, style les bœufs, les trucs comme ça, qui sont élevés par plus ou moins par les hommes, mais en tout cas qui sont tués par les hommes. Et ensuite, il y a les viandes blanches, c'est des plus petits animaux, style les lapins, la volaille, les trucs comme ça, qui sont plus une histoire de femmes et qui sont plus facilement tuées par des femmes. Et même à l'heure actuelle, par exemple dans les abattoirs, j'ai encore vu ça, il y avait une mention dans le truc là sur les abattoirs, là, immontrable, le truc sur le cinéma, là, un papier qui traîne là. Ben, il disait ça, les abattoirs de volailles, c'est surtout des femmes qui y travaillent. Ça, c'est des viandes qui sont plutôt connotées féminines. Moins énergétique, c'est moins la force, tout ça. Et puis enfin, en dernière catégorie, il y a la chair de poisson, qui est à peine une chair, mais qui est quand même une chair, enfin qui est un peu dans une sorte d'entre-deux. Et je pense que ces catégories, c'est entre autres lié au sang, mais c'est aussi des sortes de catégories qui sont liées à des symboliques de violence, à des symboliques de domination, des trucs comme ça, quoi. Que, par exemple, c'est et puis complètement lié à des symboliques patriarcales, mais... La viande rouge, c'est le symbole de force, tout ça, mais c'est aussi clairement un symbole de violence. Et c'est quelque chose qui est super associé aux hommes. Par exemple, au XIXe siècle, et même et pendant longtemps, on conseillait, il y avait plein d'hommes qui allaient boire du sang dans les abattoirs, par exemple. Et on conseillait aux femmes de ne pas manger de viande rouge. Et quand les femmes avaient un peu des faiblesses, tout ça, on leur conseillait pas d'aller dans les abattoirs boire du sang, on leur conseillait de boire du jus de poulet. Et il y a vraiment ces deux trucs, quoi, qui sont à mettre en parallèle, quoi. Les viandes ne sont pas du tout connotées pareil, quoi. Et maintenant, je pense que c'est pas un hasard si au niveau diététique, tout le discours diététique va dire oui, il ne faut pas manger de viande rouge, il faut manger plus de viande blanche, et puis le poisson c'est excellent, etc. C'est-à-dire, on a un glissement, un abandon progressif des viandes viriles, à forte connotation de violence et à mon avis de domination, vers des viandes à connotation de violence moindre, et puis il y a les poissons. Et en fait, sous l'alibi d'un discours diététique, c'est que les viandes blanches c'est censé être des viandes moins grasses, et puis le poisson c'est très bon. À mon avis, c'est du pur, le discours diététique, c'est comme le discours hygiénique au siècle dernier, quoi. C'est en fait un discours qui accompagne une mutation des sensibilités, mais qui est du pipeau, quoi. Et voilà, tout au bas de l'échelle des sentiments de violence et de domination, ben, y a les poissons, quoi. Ils sont inexistants à ce niveau-là. Ils évoquent pratiquement rien. Alors que c'est peut-être contradictoire, mais le fait qu'on ressente, qu'on éprouve un sentiment de... qu'on ressente la viande rouge comme un truc de violence, et ben ça signifie qu'on reconnaît quand même l'animal comme ayant comme une sorte de sujet, quoi, même si c'est pour le dominer. Mammifères. La viande rouge, c'est des gros mammifères aussi. Et ça rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que c'est aussi, ils peuvent être potentiellement dangereux. Par exemple, on peut être tué par un sabot de cheval ou par un coup de corne d'un bœuf, quoi. Donc quelque part, ils vont être pris en considération. Et puis c'est, du coup, c'est une histoire d'homme aussi. Ça aussi, c'est valorisant. Du coup, ils vont être pris en considération aussi pour ça. Il me semble. De la même façon que, par exemple, le cheval, c'est un animal qui est complètement valorisé parce que il servait de symbole de domination sociale à l'aristocratie et ensuite à la bourgeoisie, quoi. Et du coup, ça lui est resté comme un truc valorisant. Enfin, c'est mon explication, ça. Ça a déteint sur lui, quoi. De toute façon, il fallait qu'il soit valorisé pour servir de symbole et réciproquement, ça lui déteignait dessus, quoi. Enfin,
au moment du carême, par exemple, on ne mange pas de viande, mais on continue de manger du poisson. Donc je trouve que c'est important aussi parce que le poisson est considéré comme une quantité un peu négligeable et ça n'a pas la même connotation déjà. Je pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est un problème économique et en particulier aujourd'hui, enfin en tout cas nos parents, manger de la viande rouge. Pendant la guerre et après la guerre, c'était un signe de richesse aussi. On ne mangeait pas de la viande tous les jours, alors que du poisson, à la limite, en tout cas les gens qui étaient à la campagne pouvaient en manger assez facilement. Donc je pense qu'il y a aussi, on se trimballe aussi toutes ces notions à la fois économiques et puis religieuses.
C'est vachement important quand on fait des actions, des tracts, des trucs comme ça, de sans cesse remettre, ne pas oublier de mentionner les poissons et de leur accorder une place. Il y a vraiment un travail de fond à faire pour une visibilisation, quoi, des poissons, et qui est un travail monumental.
C'est beaucoup plus difficile de sensibiliser les gens au problème du poisson par identification, mais aussi parce que un mammifère, mis à part les baleines, effectivement, les mammifères marins, il y a aussi une sensiblerie. Enfin, je veux dire, on aime le mammifère, on peut aimer un mouton, on peut aimer un poisson. Même les gens qui ont des poissons en aquarium, je veux dire, ils n'ont pas du tout la même relation qu'avec un chien, un chat, une gazelle, un lion, n'importe quoi. Enfin, c'est une question d'identification, mais d'amour aussi, enfin de projection, voilà. Alors qu'avec un poisson, enfin, moi je connais pas beaucoup de gens qui caressent leur poisson et qui leur parlent.
Justement, quand tu essaies d'attirer l'attention sur le poisson, qu'il soit poisson dans l'aquarium ou poisson dans l'assiette au quotidien, ça fait encore plus parler les gens.
Et je trouve qu'il y a d'ailleurs plus de projections sentimentales vis-à-vis d'une plante, par exemple. Il y a des gens qui vont visionner leur plante, qui vont leur parler, etc. Alors que avec les poissons, pas du tout. Enfin, je trouve qu'il y a c'est un monde qui est encore plus étranger, j'allais dire, que le monde végétal, enfin, je trouve.
Quelque chose un petit peu contradictoire dans ce fait que ça fasse marrer les gens parce que En général, quand on proteste par rapport au traitement des animaux, on dit que c'est de la sensiblerie, donc que ça correspondrait à une espèce d'émotion primaire dont réfléchit. Alors que pour les poissons, au contraire, c'est justement, c'est pas un animal attirant. Donc si on proteste, c'est difficile que ça soit de la sensiblerie. Donc ça devrait, enfin, les gens ne devraient pas se marrer, ils devraient, mais au contraire, en fait, ils se marrent.
Mais pour les poissons, oui.
Voilà, c'est ridicule.
C'est, ils nous attribuent, en fait, malgré le fait que ce ne soit pas des animaux attirants, ils nous attribuent quand même une sensiblerie invraisemblable, quoi. Encore moins fondée et complètement exagérée, parce que c'est même pas un animal attirant.
Mais avec les insectes, c'est la même chose, c'est ouais.
Je ne ressens pas beaucoup comme ça. J'ai l'impression que quand on parle de la souffrance, quand on dit bah, je ne mange pas de poisson parce que les poissons souffrent, les gens ils vont être très bien. Là où il y a peut-être une sensibilité de ça, c'est quand il y a un aquarium et tu t'intéresses, tu parles de poisson, des choses comme ça, parce que les gens ils vont plus de mal, ils vont continuer à imaginer une communication qui aille un peu loin avec l'impression que la sensibilité, enfin que la rigolade elle va se passer. Dans ce cadre-là, où les gens vont rigoler d'une personne qui va se fabuler une communication avec un poisson, souvent très bien. Et quand on parle par contre de la souffrance, je n'en parle pas de ça, ce profil, les gens le comprennent tout à fait. Je ne peux pas confronter plus de rigolade là-dessus que sur les poules, par exemple, qui sont. De souffrance, moi j'ai pas eu de gens qui discutent. Et je pense que vraiment la fonction, comment on l'apprend, comment on met sur la parole. On va corroborer ce qu'il disait aussi sur le fait que les poissons, la défense animale, c'est toujours un truc qui n'est pas du tout abordé, même considéré. On voit aussi par rapport sur les marées noires, c'est-à-dire qu'il y a des femmes bénévoles qui vont aller. Elle parle de la souffrance des étudiants. C'est sur ce critère-là qu'elle se. qu'elles appuient et qu'elles trouvent intuitivement déterminante pour leur position. Et je suis pas sûr, par exemple, pour voir les poissons qu'ils ont pas de néocortex et tout ça, enfin, c'est pas tout ou rien, c'est pas que les poissons n'ont pas de néocortex, tout ça, enfin, les animaux qui vivent dans l'eau, c'est pas du tout rien, quoi. Le cerveau, il y a le cerveau reptilien, le cerveau mammifère, etc. Mais en fait, tout simplement, quand on regarde les reptiles, et ben, les reptiles aujourd'hui, ils ont déjà des embryons de. C'est pas. Des embryons du cerveau mammifère, etc. Mais les poissons, les poissons n'ont pas de néocortex, mais on fait vite des classifications. Les poissons, ce sont les néocortex, tout ça. Et moi, j'ai peu d'éléments, en fait. Un saumon, par rapport à sur un lézard, un oiseau, voilà. Et est-ce que les êtres humains qui ont des lésions néocortex continuent à avoir des émotions? Pourquoi les poissons n'ont pas de néocortex? C'est tout un impression, j'ai l'impression qu'il y a encore plus à rassembler par rapport à ça, et une argumentation qui soit pragmatique et qui soit. C'est certain qu'on n'aura pas de convictions sûres à proposer, mais comme pour les êtres humains, comme pour d'autres humains, etc., pour d'autres humains qui n'ont pas de langage, ils ne peuvent pas nous dire comment ça se passe dans leur tête. On n'a jamais de certitude, on peut se dire que c'est le langage qui fait nous poser la souffrance. Pourquoi pas? Donc on a toujours un faisceau d'arguments, d'indices à trouver qui permettent d'argumenter sur la question. J'ai l'impression qu'il y a un enjeu par rapport au poisson. Pour dépasser justement le fait qu'effectivement, avec les poissons, la communication elle est réduite, c'est un milieu qui nous est complètement étranger. Donc on pourrait retrouver aussi chez d'autres mammifères, on le projette, quand on creuse un peu, on ne sait vraiment pas du tout ce que c'est que le monde, la vision du monde, à travers leurs yeux ou à travers les autres organes sensibles qu'on va avoir. Il y a l'exemple de la chauve-souris, ce que c'est que on est incapable de savoir. Je sais que c'est une chauve-souris, mais je pense qu'on a l'enjeu, à mon avis, d'essayer de rationaliser un peu quelque chose, et de montrer que c'est la souffrance. Enfin, le levier de la souffrance, c'est pas un levier, mais la considérance de le fondement de la souffrance, c'est de travailler sur les poissons, la grosse catégorie de poissons. Essayer de voir dans les moules, en marbre. J'ai l'impression qu'il y a justement ces études scientifiques-là, elles sont importantes. Elles sont importantes à rassembler, à travailler, à décortiquer, au niveau pragmatique.
Peut-être qu'il faudrait voir si il y a des travaux qui sont développés au niveau de ça, sur cette question.
Il y a peu de choses, j'ai l'impression, sur le poisson, tout ça. Peut-être justement qu'ils sont arrivés en France, sur comment c'est fait. On sait bien comment c'est fait sur les minéraux, tout ça, parce qu'on les a vachement étudiés dans les labos. Tout ça, les poissons, je ne sais pas ce qu'ils étudient quand même.
Dans le prochain numéro de l'accueillante spéciste, on a un numéro pratiquement entièrement centré sur la question de la sensibilité. Sensibilité comme notion en général, et avec différents textes. Parlant de ça, suivant différentes approches, différents points de vue. Mais je pense que, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte à quel point il y a une absurdité, à quel point on est inculte sur le cerveau. On parle de néocortex, on parle de cerveau reptilien, moi je sais pas ce que c'est, quoi. Je veux dire, j'ai vaguement une idée, une partie qui est plutôt vers l'arrière, une partie plutôt vers l'écorce, mais. Une partie plutôt spécifique aux êtres humains, d'autres qui ne sont pas. Je sais pas, je dirais que je trouve ça délirant qu'après tant d'années de militance, on le sache pas plus, quoi. Et je pense que ce serait important de, sans devenir neurobiologiste, mais de simplement de tous capables de repérer ce que c'est le cerveau et de savoir un petit peu parmi les animaux qui a quoi, très grosso modo, quoi. Non, mais il n'y a pas à faire de la dissection, non, mais. Hein?
Non mais ni vivisection ni dissection, enfin je veux dire c'est des données qui sont connues, qui résultent peut-être de dissection ou de. Enfin forcément, mais.
Moi j'ai été un peu halluciné par le travail qui peut être fait aux États-Unis par des gens sur ces questions-là. Là j'ai justement par rapport à la brochure sur les poissons, je me suis un peu penché sur le bouquin de David DeGrazia dont des passages avaient été traduits dans les cahiers. Et je me suis penché un peu sur l'original en anglais. Bon, il ne dit pas non plus grand-chose sur les poissons, mais il y a une sorte un sérieux hallucinant dans la. Poser la question de, bah, des différents types de souffrances, de la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience, quel rapport avec la souffrance, tous ces trucs-là, et les états mentaux comme la peur, ou c'est des questions, ça touche à la fois à la philo et puis à ce qu'on sait au niveau des sciences sur ces questions-là, quoi. Mais j'ai beaucoup de mal à imaginer des Français faire ce type de travaux, quoi. Un truc extrêmement. Analytique, fouillé, qui est au confluent entre la recherche scientifique et puis la philosophie en fait. Et c'est des trucs, ça, je vois pas d'équivalent dans le paysage intellectuel français de recherche de ce style. Même en dehors du fait que ici ça parle des animaux, quoi. C'est encore,
je pense que c'est dit. Je veux dire, en France, on a une tradition philosophique, la philosophie germanique, la philosophie très liée à la métaphysique, à l'ontologie, et très liée uniquement à l'être humain et à son rapport à l'autre, son rapport à la nature, son rapport à Dieu. Mais savoir où ça se passe, où se passent les émotions, ça n'existe pas dans la philosophie, quoi, en France. Et essayer d'analyser les notions, ça n'existe pas non plus, quoi. Essayer d'analyser en des termes qui pourraient peut-être montrer que les choses sont pas si simples, que sur les notions comme dire oui l'animal n'a pas conscience de lui-même ou des choses comme ça, on nous balance ça, ou un scientifique vivisecteur qui disait l'animal ressent la douleur mais ne souffre pas. Bon, voilà, on avait évacué le problème, quoi. On utilisait un mot qui est censé être de niveau supérieur, qui est souffrance. On va réserver ça aux êtres humains. Et puis les animaux, on va dire, non, ils ont pas ça, mais sur la base de rien, quoi. Sur la base juste d'un décret comme ça, et la philosophie va passer derrière et valider ça, parce qu'elle n'a pas intérêt à faire trop bon. Et voilà, quoi.
Moi j'étais en train de penser que ça vaudrait peut-être le coup de faire une affiche spécifique sur les poissons. Tu vois, parce qu'il y a des affiches de toute façon qui sont bientôt épuisées, non? Les affiches avec la poule là, sur spécisme. Je sais pas, tout le monde voit un peu à quoi je fais allusion?
Oui, ça fait en
mal. Ah, il y en a là, non? Des affiches?
Autant on emporte le vent.
Hein? Il en reste beaucoup de ces affiches, hein. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de travailler sur une affiche sur Et sinon je saute du coq à l'âne, mais il me semblait que ça serait bien. C'était un peu quand on avait été à Bilbao, il y avait des rencontres antispécistes il y a quelques mois en Espagne. Une conclusion qu'il y avait eu entre les Espagnols et les Français qui étaient présents, c'était d'essayer de mettre le paquet sur le fait de faire connaître à la population le mot spécisme. Et il y a des années et des années de ça, on avait fait des affiches qui s'appelaient « Qu'est-ce que le spécisme ?» Et ça aurait le coup. Ah ouais, tu penses à ça, là?
Bien sûr. Surtout aussi quand on met au niveau du dictionnaire pour le spécisme, puisqu'apparemment il est de plus en plus employé dans les journaux. Donc ce serait bien de reprendre ce travail-là que vous avez commencé, je crois, pour que le mot spécisme rentre enfin dans le dictionnaire. Quoi.
Surtout qu'il y a peut-être plus de chances maintenant de rentrer que.
Oh, on l'a vu partout, là. On l'a vu dans Libération.
Tous les magazines de pêche en parlent, ça devient vraiment un sujet important. Ça fait longtemps que ça existe, cette idée de no-kill. Depuis toujours, il y avait des. Pas depuis toujours, depuis longtemps, il y avait des pêcheurs qui relâchaient les poissons, qui les mangeaient pas. Mais là, ça devient vraiment quelque chose de très courant.
Juste en bas du parc du camping.
Déjà le terme. On a utilisé un terme qui fait presque un cible,
ouais.
Qui est connu par les pêcheurs. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Est-ce que c'est un souci de préserver l'activité de la pêche tout en essayant de garder des poissons en rivière? Est-ce que ça se retrouve aussi avec
je crois qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a dans les magazines de pêche, on indique comment de pas pêcher avec un ardillon. L'ardillon, c'est le petit truc recourbé sur l'hameçon. J'ai vu qu'il y avait. Il y a la Ligue française des droits de l'animal là qui a fait une brochure, d'objet d'ailleurs, sur la pêche de loisirs, où eux ils disent qu'ils sont contre la pêche de loisirs, mais bon, voilà. Et ils ont réussi à faire éditer par le conseil, départemental de l'Isère, une brochure, et ils vont essayer de la faire éditer un peu partout, qui s'adresse aux pêcheurs et qui est diffusée dans les trucs de pêche, dans les associations de pêche, et qui donne des conseils sur comment écraser l'ardillon de l'hameçon, des trucs comme ça. Et on retrouve le même type de conseils dans les magazines de pêche.
Et puis,
ouais, parce qu'en fait, quand tu as l'ardillon, quand tu l'enlèves, après, ça déchire nécessairement la chair. C'est comme un harpon, quoi. Ça fait un truc qui s'enfonce et qui fait un. Ouais, comme une flèche, ouais. Et ils donnent des conseils aussi. Parce qu'en fait, bon, les poissons, quand on les manipule, ils ont un mucus qui les protège. Qui les protège au niveau microbien, des infections, des. Et quand rien que le fait de les toucher à la main, ça peut. Ça peut les fragiliser complètement en fait et réduire leur chance de survie. Donc ils donnent des conseils là-dessus, etc. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Et il y a un autre truc intéressant, c'est la pêche au vif. C'est quand même quelque chose qui est assez répandu.
J'ai trouvé un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, mais on estimait à 12% de la pêche de loisirs comme la pêche au vif. Et c'est une horreur la pêche au vif. Hein. C'est utiliser un poisson vivant comme appât. C'est-à-dire qu'on lui. On lui rentre le fil sous la peau, on lui met un ou deux hameçons en travers du corps, ça peut être en travers des yeux, etc. On le jette à l'eau,
comme il gigote, en plus il souffre, il saigne plus ou moins, il attire les prédateurs, les brochets par exemple, ou les cendres, et bon, qui vont le bouffer. Et puis, et en fait, la pêche au vif, c'est pareil, elle est en régression, et particulièrement chez les jeunes pêcheurs, ça diminue. Donc il y a plein de signes comme ça, qui sont, il me semble, qui sont des signes que les gens font de plus en plus attention en fait à la question de la souffrance et qu'il y a une sensibilité qui se développe, quoi. Enfin bon, on en est à un tel niveau qu'il y a intérêt à accélérer le mouvement.
De frapper l'aquarium, il faudrait peut-être trouver un exemple qui nous touche, nous les humains. Enfin, je sais pas, ce serait le fait d'être dans une salle fermée avec. Oui, voilà, ça par exemple, je sais pas, si on veut les toucher, c'est ça, parce que sinon, effectivement, tu les fais rire parce que ça ne leur parle pas. Enfin, ça, il n'y a pas de. Alors qu'effectivement, l'hameçon, tout de suite, on a l'impression que c'est notre propre chair qui est blessé.
C'est surtout que ça paraît ridicule de taper un aquarium alors qu'ils en mangent du poisson. Quoi. Moi, je pense ça qui les fait rire aussi. Il y a un décalage énorme. Enfin,
oui, je suis pas sûre parce que je suis pas sûre parce qu'il y a des tas de gens qui mangent de la viande et qui adorent leurs chiens et qui adorent. Enfin, moi, j'étais très choquée au moment des Jeux Olympiques.
Ils mangent pas du chien.
Oui, voilà. Il y avait des Français familles qui se révoltaient parce qu'on mangeait du chien. Tu vois. Donc je pense pas que ce soit le fait de manger du poisson qui les fasse sourire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier, je pense que c'est beaucoup plus. Oui, mais il y a des pays où on mange du chien et.
Mais eux, ils sont pas révoltés.
Ils mangent pas du poisson rouge.
Oui. C'est le poisson rouge, je mange pas. Enfin voilà, c'est.
Non, mais c'est aussi bon
que ça. Je crois qu'il faut vraiment faire appel.
Ils mangent du lapin et ils mangent pas le lapin nain que dans la maison.
Moi, j'avais une jeune fille récemment devant moi, enfin, je vais avoir 16-17 ans, qui mangeait de la viande et qui était étonnée que je n'en mange pas. Et je lui ai dit, on avait parlé des animaux et elle me disait qu'elle aimait les animaux. Et je lui ai dit, je trouve ça curieux que tu les aimes et en même temps tu les manges. Je lui ai dit, c'est exactement comme si tu me disais que tu aimais les enfants et que tu mangeais. Enfin, tu me dis que tu aimes les enfants mais tu ne manges pas de bébé, par exemple. Je crois que ce sont des choses qui leur parlent, enfin qui parlent davantage parce que ça les projette. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, oui.
C'est mal passé.
J'avais un éleveur, en fait, qui était bien charolais.
Oui.
Et je lui ai dit, vous aimez vos enfants aussi. Et l'autre avait répondu, j'ai dit,
oui. Ah oui, évidemment. Et vous les mangez pas? Vous ne les tuez pas? En fait, immédiatement, elle s'est tournée vers sa mère en lui disant « je vais devenir végétarienne ». Et je pense que, bon, elle ne va pas le devenir immédiatement, mais je pense que ça va faire son chemin.
La sensibilité des poissons
aquarium. Moi, c'est marrant, j'étais tombé sur un texte d'un protocole d'expérimentation sur les poissons. Donc, il sert beaucoup pour expérimenter les teneurs en certains produits chimiques et leur nocivité dans les eaux. Et donc c'est un protocole d'expérimentation animale. Et il y avait plein de trucs qui étaient où ils se souciaient énormément en fait de pas stresser les poissons. Et par exemple, ils recommandaient dans le protocole d'allumer l'aquarium, mais de le mettre dans une pièce sombre. Pour, l'aquarium était allumé, bon, pas trop fort non plus, pour que les poissons soient tranquilles, mais que ce soit dans une pièce sombre, pour pas que les poissons soient stressés par la présence de l'observateur. Ils ne le voyaient pas, vu que l'observateur était dans la pénombre. Et c'est pour pas fausser les résultats, pour pas que les poissons aient des comportements liés à la peur, du fait de voir se profiler tout d'un coup quelqu'un, etc. Et ça fait un contraste saisissant avec l'indifférence avec laquelle on évolue autour d'un aquarium. Les expérimentateurs, eux, font super gaffe à ce genre de choses.
Il y a toujours avec les vibrations, une mare, un plan d'eau qui est gelé. Quand on va sur ce plan d'eau, on provoque des vibrations. Les poissons qui sont pris dans la glace, eux, peuvent très bien survivre et se mettre en état de... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon, ils peuvent rester un certain temps comme ça pour prendre la glace et comme ça, déjà, peut-être qu'ils repartent. Sauf si... il y a trop de vibrations en allant marcher sur la glace, comme ça, là, ça peut les tuer. Et ça, sensibiliser les gens à ça, ne serait-ce que des gamins, des trucs comme ça, j'ai vachement mal. Enfin, je rencontre les enfants qui vont sur la mare et j'essaie de leur expliquer ça. Enfin, c'est pas facile, quoi. Les adultes ont grandi.
Qu'est-ce que tu as trouvé cette information ?
Je sais plus.
C'est vrai qu'il y a le problème de hors-bord aussi. Moi, je trouve qu'on voit vraiment de comment les poissons vivent ça. Parce que ça fait, il y en a qui en périllent. Ce qu'on appelle des speedboats, des bateaux qui peuvent faire 250 km/h sur la rivière. Ça se trouve, c'est terrible.
De la brochure. La brochure, donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est un copain imprimeur qui va l'imprimer, ce sera pas très cher. Mais du coup, on va lancer un appel de fonds aussi pour que des gens financent la brochure pour que justement elle soit diffusable gratos quoi, sur le stand. Hein. Ou à 1 franc, mais enfin à des prix dérisoires. Quoi. Et voilà, et du coup, si vous pouvez en parler autour de vous, tout ça, qu'il y a des gens que ça intéresse de co-financer ça. Projet-là, je sais pas combien ça a eu, je sais pas combien ça, ce sera pas énorme, ça sera quelques milliers de francs, je pense. Pour les tenir grand peu. Tu veux pas en faire sur les poissons?
voulu en racheter, elle était presque. Je ne sais pas moi.
À propos de t-shirts, Olivier a ramené des t-shirts, Sébastien. Ce qui fait que s'il y a des gens que ça intéresse, il y a des t-shirts anticipés. Ouais. Ça a été fait de façon artisanale. Non, c'est. C'est... Il faut les repasser, oui.
C'est pas grave.
Non.
Il faut les repasser, tu veux dire.
Bah parce qu'il faut fixer la peinture.
Ah, ah ouais.
On les a repassés, mais comme il y en avait une cinquantaine, ça a été repassé à toute vitesse. Donc il faudrait les repasser 3-4 minutes. Quoi.
Ah ouais,
ouais, pour fixer.
Sinon, ça, c'est
bon,
ça
va. Ouais, bah ouais, des fois j'oublie de le dire.
Sur
internet
pour la souscription.
Oui, oui, oui. Et en fait, ce que j'aimerais bien, moi, ce qui me plairait, c'est que des trucs comme la PMAF ou One Voice en prennent des gros stocks et puis les diffusent en même temps comme une sorte de tout encadré spécial, en même temps que leur, leur revue, là. Enfin, je sais pas s'ils voudront, hein, parce que c'est bien, bien spécifique comme ça rond avec leur ton habituel parce que c'est...
En tout cas, en informer le public que cette brochure est disponible.
Bah ça, je pense qu'ils le feront par contre. Mais ce que j'aimerais encore mieux, c'est qu'ils diffusent carrément à l'ensemble de leurs abonnés. On verra, mais je vais leur proposer.
Donc si on a les documents sur la pêche, je sais qu'on peut t'en envoyer.
Ouais.
Et le homard, ça t'intéresse
aussi. Ouais, aussi, en fait. Je me demandais si j'avais rajouté un petit encadré là-dessus.
Ouais, ça
ben, ouais. Mais en fait, on a déjà trop de place par rapport à la place. Ouais. Mais il y a un truc aussi, enfin moi, il y a des trucs où j'arrive pas à trouver les renseignements, ça viendra peut-être, mais... par exemple, sur les, parce que je voulais faire un petit encadré sur l'expérimentation sur les poissons. Et les chiffres du ministère de la Recherche en France, ils ont, en 10 ans, ça a baissé de moitié le nombre de poissons. Mais déjà, les chiffres, ils sont relativement faibles. Hein. C'était 50 000 poissons à peu près en 90, et c'est tombé à 25 000 à peu près en 99. Alors déjà, ça me paraît bizarre qu'il y ait si peu de poissons expérimentés, alors que c'est quand même... ils viennent tout de suite derrière les rats et les souris, normalement. Mais en plus, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce nombre-là, il a baissé. Et ça, si jamais vous trouvez quelque chose là-dessus... J'ai fait, mais pour l'instant... le chef est en vacances et les autres ne savent pas. Bon, c'est du détail. Hein.